Bonsoir à tous, 100% rugby le lundi, c'est débrief jusqu'à 19h, vous en avez l'habitude, 100% rugby, ça s'écoute aussi en podcast sur le site internet de France Bleu Pays Basque, les applications ici ou Radio France, n'hésitez pas à partager l'émission, laissez vos avis sur les réseaux sociaux, laissez les lire au maximum et on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux de nous suivre. Au moins c'est clair pour l'aviron bayonnais, l'objectif désormais c'est le maintien après la désillusion subie contre l'UBB, défaite 34-15, la forteresse de Dogé finit par tomber 27 mois après en championnat. Notre invité n'a pourtant pas démérité sur cette rencontre. Il a même marqué. Arnaud Hermine Artegara est le trois quarts de l'aviron bayonnais avec nous. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
On reviendra sur ce match, sur ce que ça veut dire pour l'aviron dans la course au maintien, mais aussi on prendra le temps de revenir sur votre parcours de Barcus jusqu'à Jean Dogé en passant par Moléon. Autour de la table, Eric Balader, Jean-Baptiste Laplace, salut à tous les deux.
Bonsoir. Salut.
Le Biarritz Olympique, justement, puisqu'on était avec JB qui a été formé du côté du Biarritz Olympique.
À Monguer, pardon. À Biarritz quand même. Formé à Monguer. Passé par Biarritz.
Passé par Biarritz. Mais est-ce qu'on peut dire du coup formé en partie à Biarritz? Ou est-ce que tu trouves que c'est une insulte?
Formé à Monguer, passé par Biarritz.
Ok, on va garder ça. Moi, je vais fâcher personne, il n'y a pas de souci. Du coup, le Biarritz Olympique. Mais il y a quand même des photos en rouge et blanc. Son côté fait un grand pas pour le maintien après sa victoire à Armandie contre Agen 30-26. Débrief de cette rencontre. Les infos du jour. Et puis, dans la dernière ligne droite, on sera avec le capitaine de l'Anglet Olympique, Enzo Labadie. L'AORC éliminé en quart de finale de National 2, battu à Rennes 21-19. 100% rugby. C'est jusqu'à 19h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby avec Stéphane Garcia.
Et Arnaud Hermine Artegaray, le trois quarts de l'aviron bayonnais. Arnaud, est-ce que 48 heures après cette rencontre, cette défaite, elle est digérée du côté de l'aviron bayonnais, de votre côté?
Elle est en cours de digestion, on ne s'est pas encore retrouvé avec le groupe. Voilà, on se retrouve demain et après-demain pour cette semaine. Et c'est vrai que ça a été compliqué samedi face à cette équipe de Bordeaux. Voilà, où on perd sur un score assez sévère. Et voilà, maintenant, va falloir se relever et viser les prochaines échéances.
On disait en cours de digestion parce qu'en plus effectivement le prochain match n'arrive pas de suite, c'est que dans moins de deux semaines à Auxerre contre le Racing. Ça veut dire que cette digestion elle est plus lente et du coup plus difficile aussi.
Ouais, c'est vrai que passer d'un match à l'autre, si on joue le week-end d'après, c'est peut-être plus facile dans le sens où on passe sur un autre projet de match. Mais là, voilà, on va se concentrer sur ce qui n'a pas été ce week-end sur cette semaine et après on va vite passer pour le match, pour le prochain match la semaine prochaine.
Voilà.
Oui, c'est une défaite, j'ai envie de dire logique, mais
c'est au en début tout cas du mot employé par le staff, notamment de l'aviron et par les joueurs.
Ouais, après coup, quand on analyse quand même, que ça soit les quelques chiffres que j'ai vus et le contenu en direct, la défaite, elle est logique. Maintenant, quand tu démarres le match, t'as quand même des armes. On était sur une grosse défaite contre Toulon, une victoire à Paris. Parce que, et puis là, on se remet en difficulté sur des choses. Moi, j'ai envie de dire qu'on perd le match stratégiquement, tactiquement aussi. Alors, le temps, il y a des impondérables à ce jeu, mais on les maîtrise de plus en plus, puisque on étudie l'adversaire toute la semaine. Donc, l'adversaire, on le connaît. L'arbitrage a des coms avec les staffs, donc ils savent qui c'est, comment il va arbitrer, etc. Et puis, vous avez la météo. Donc, on a eu toutes les météos dans ce match. Donc, tout ça, on le maîtrise. On a vraiment perdu sur de la stratégie, de la tactique et sur cette façon des béglés à mettre le ballon dans notre camp, dans des zones mortes, et on a été acculé et on a fait des fautes et on s'en sort pas et on prend des points et on s'en sort pas.
Arnaud,
ouais, franchement on est passé complètement à côté de cette première mi-temps, comme tu l'as dit. On avait vu que cette équipe du UBB déjà elle était très forte sur les premiers lancements, que ce soit sur touche ou mêlée, et voilà, on démarre le match en prenant un essai sur lancement sur mêlée, donc déjà ça démarre mal. À partir de là, on réagit en mettant 3 points, mais après voilà, beaucoup de maladresse sur cette première mi-temps où on est quand même assez dominé sur les collisions. Peut-être, ouais, on a été, en fait ils nous ont acculés dans notre camp et on n'a pas su forcément en sortir avec beaucoup de jeux de pression, de jeux au pied de pression. Et voilà, ce qui nous a mis en difficulté. Voilà, après, il s'est passé.
Et pourtant, il y a la révolte, j'allais dire. Il y a la révolte, ce retour des vestiaires, ces deux essais marqués. Vous revenez à 18-15, et après votre essai d'ailleurs. Et à ce moment-là, on a l'impression que extinction des feux, et en tout cas, l'UBB n'a pas sombré, contrairement à ce qu'on aurait pu penser.
Oui, c'est sûr. Enfin, là, on était revenu des vestiaires en se disant que voilà, il fallait montrer un tout autre visage que celui donné en première mi-temps. On sonne, oui, voilà, un réveil sur les 10 premières minutes. On se dit que voilà, il faut continuer, il faut les agresser, il faut pas les laisser jouer, il faut qu'on marque notre territoire. Et finalement, oui, ils relèvent la tête, ils s'affolent pas, et voilà, ils continuent leur stratégie de nous acculer chez nous, et ça a fonctionné pour eux.
JB.
Ouais, c'est stratégiquement, ils ont super bien démarré le match, l'UBB, en les mettant chez eux. L'Aviron n'a pas réussi à sortir son camp, et surtout là où d'habitude quand l'Aviron revient dans le match, même quand ils sont menés à domicile, on sent un peu le traquenard arriver pour les équipes adverses. Et là, les leaders de jeu en fait de l'UBB, je pense, ont réagi comme des patrons et ont pris le match à leur compte. Et juste après, ils réagissent d'entrée avec l'essai de Bilbiaré qui est, ça va vite après. Hein. Quand on leur laisse des ballons. C'est la patrouille de France, mais pas loin. Hein. Franchement, ça va très vite. Et une charnière qui a vachement bien géré le match.
Ouais, Lucas Jalibert, ouais.
Ouais, des coups de pied.
Quelles que soient les conditions, hein, parce qu'en première comme en seconde période, ils sont vraiment au-dessus du lot, hein, dans le duel.
Oui, Lucu, je reconnais qu'il a en effet fait un match extraordinaire. Jalibert, j'ai l'impression qu'il a joué à 20 km heure, quoi. Il était tranquille, sourire aux lèvres. Non,
mais pourtant, c'est ce qu'on lui avait demandé. Yannick Bru qui disait effectivement après la rencontre, j'ai aimé parce que Mathieu a été sobre, qu'il a respecté le plan à la lettre, à la lettre vraiment. Oui. Et preuve en est, c'est que ça a suffi.
Oui, moi je reviens sur la tactique. On prend un essai sur une mêlée où il y a un renversement annoncé.
Ça, c'est le premier essai, effectivement.
Ouais, enfin, c'est 2-3. Ils l'ont fait 2-3 fois dans le match, et à chaque fois, ça a quasiment fait moucher. Donc, c'est des zones qu'ils avaient sûrement ciblées où il fallait attaquer ces zones-là, en essayant de faire croire qu'on jouait le sens.
Ou... Et c'est pas la première fois que sur les renversements, l'Aviron se fait prendre cette saison.
C'est pas la première fois, en effet. Donc, peut-être qu'il y a une circulation des défenseurs un peu trop active dans le sens. Mais, pour revenir sur Jalibert, j'ai pas souvenir dans le match où tu le vois vraiment dangereux. Par contre, j'ai vu autour de lui une équipe maîtriser son sujet, et nous être quand même très attentistes, quoi. On n'a pas agressé cette équipe, comme tu disais, où on cible Jalibert. Excuse-moi, quand sur le premier lancement de mêlée en défense, tu sors ton 10, tu le mets deuxième centre pour pas qu'il plaque, t'as quoi comme solution? Ben, tu le vises, non? Je sais pas. Moi, je suis entraîneur, mais amateur, hein. Mais quand je vois le disque qui se sort pour pas plaquer, je dis, sautez une, vise-le. Et là, on l'a laissé faire. On sait que c'est un joueur extraordinaire. Mais je trouve que on a été un peu trop attentiste, en tout cas, pour gagner contre une équipe qui va jouer sûrement les demi, hein. Voilà.
Eh bien, on continue avec Arnaud Hermine Artegara et notre invité ce soir dans 100% rugby, le trois quarts de l'Aviron Bayonnais.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Avec Arnaud Hermine Artegaray, notre invité ce soir, le trois quarts de l'Aviron Bayonnais. Un résultat contre l'IBB, on en parlait, cette défaite 34-15 qui du coup place l'Aviron Bayonnais à la 12e place, à 5 points de Montpellier. Parce que dans votre malheur finalement, on a pu compter sur une défaite de Montpellier à domicile contre Perpignan.
Oui, on a eu cette chance-là. Maintenant, il faut pas qu'on mise sur le résultat des autres pour décider de notre fin de saison. Voilà, il faut qu'on se concentre sur nous, et il faut qu'on aille chercher le maximum de points possibles sur les 4 derniers matchs, parce que voilà, il faut qu'on compte sur nous et pas sur les autres.
On a l'impression, mine de rien, quand même, que là, ça fait 4 défaites consécutives. Si on met en plus la Challenge Cup, je sais que Grégory Pata n'avait pas envie de la mettre après le match, quand je lui ai posé la question, mais ça fait quand même 4 défaites consécutives. C'est simplement pas un feu de paille, ce qui a pu se passer sur ces derniers matchs. Et on sent bien que là, on a l'impression, en tout cas, que mis à part sur la première période du Stade français, peut-être qu'on a tiré le frein à main, ou en tout cas que c'est plus difficile du côté de l'Aviron.
Oui, c'est sûr, ça fait 4 défaites de suite, si on compte la Challenge Cup, mais
c'est évidemment un contexte spécial. Oui. Mais bon, ça fait une défaite.
Il faut pas, on va pas s'affoler, on s'affole pas. Il faut c'est le sprint final, que ce soit pour le haut ou pour le bas. Donc il faut surtout pas s'affoler, il faut se concentrer. Je pense qu'on a des joueurs de qualité, on a des joueurs d'expérience pour gérer aussi ces moments-là. Donc voilà, il faut continuer, persévérer et aller chercher le maximum de points.
Bah là, 4 journées, 5 points d'écart avec Montpellier.
Ça se resserre je pense que l'aviron a les cartes en main, plus adapté aussi à ses positions, donc à gérer peut-être l'effectif,
faire des choix sur les matchs.
Ouais, je pense que c'est en tout cas il faut essayer de se poser ces questions
là pour que ce soit clair pour tout le monde. Il reste le Racing à l'extérieur, délocalisé à Auxerre. Il reste la réception de Perpignan après une semaine de repos, et derrière, effectivement, tu te déplaceras du côté d'Oyonnax avant de recevoir Castres pour terminer la saison.
Bah, écoute, il t'en reste 3, t'as un match à Paris. Quatre. Oui, il t'en reste 3 à gagner, parce que t'as un match à Paris.
Pour toi, il t'en faut 3?
Non, je pense que 2 vont suffire, mais raisonnablement, aujourd'hui, si tu reçois Perpignan et que tu fais un gros match, qu'après tu vas à Oyo, bon, si tu peux te sauver à Oyo, il faut le faire, quoi. Par contre, le premier, aller gagner à Auxerre, bon, je comprends pas.
Le stade est plein. La Baie des Champs.
À Auxerre.
Eh oui.
Et hein. Bon, ça va être particulier parce que.
Ça sera pas la pelouse synthétique de la URN en plus. Non, mais peut-être que sur un malentendu.
Ils ont déjà tracé un terrain de rugby à Auxerre.
Arrête, comme ça.
Faudrait pas qu'ils nous oublient les embuts.
T'inquiète pas, je pense en plus on sera très bien reçus, je pense, JB.
Non, le maintien, c'est sûr qu'ils ont quand même les cartes en main. Une à deux victoires va suffire. Aucune victoire, je pense que ça devrait être compliqué parce que Montpellier est capable aussi d'aller gagner partout.
Ouais, ils vont à Castres, ils reçoivent Toulouse, ils reçoivent Lyon et ils finissent par un déplacement à Clermont.
Mais les 4 matchs sont à la portée de l'aviron, je pense, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, parce que même gagner au Racing, l'aviron a souvent fait des bons matchs à Paris, que ce soit au Stade Français ou au Racing. Et non, après, ça fait depuis 2 ans qu'ils étaient invaincus aussi à la maison, donc ça fait depuis 2 ans qu'il n'y a pas eu un enchaînement de défaites. À voir maintenant. 3 défaites à la maison, forcément, quand ça gagne, c'est plus facile de... Ben, la cohésion du groupe, elle est plus simple maintenant, avec un enchaînement de défaites. Je ne sais pas comment le groupe va réagir aussi. Donc maintenant, il y a le maintien et il n'y a plus que ça à assurer.
Comment le groupe va réagir, c'est toute la question qu'on vous pose, Arnaud.
On va se resserrer, on va repartir au travail, tout simplement. On a toujours les cartes à main, comme vous l'avez dit. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on vise déjà les 2 matchs à domicile qu'il faut absolument gagner, et après aller chercher les points extérieurs. Et voilà, tout simplement, se resserrer cette semaine, la semaine prochaine, et partir tranchant au Racing.
Je pense qu'il faut pas non plus qu'on se trompe de rugby. Tout ça pour dire que l'aviron, il y a quelques mois, je pensais qu'on était en mesure de proposer un jeu un peu plus complet. Je me rappelle du match à Toulouse qui avait été très plaisant et d'autres. Et j'avais dit peut-être que on a un bon printemps. Là en effet, il faut reconstruire cette défense qu'on avait là, un mur avec à chaque fois qu'on tape un mec, et ben il y a un stop. On a des gratteurs, on n'a pas récupéré dimanche de ballon sur des contests ou très peu, alors qu'on en perd énormément comparé à d'habitude. Et je pense qu'il faut qu'ils se reconstruisent ce mur là où on avait vraiment de la qualité, et le public qui est un peu éteint, je trouve, aussi samedi, va reconnaître son équipe. Quand vous mettez 2 stops au capitaine de l'équipe de France contre La Rochelle, le stade se lève. Là, il a manqué ces actions-là. Il a manqué un petit peu de ça.
Arnaud Herbien Artegaray, le 3/4 de l'aviron bayonnais, notre invité ce soir dans 100% rugby. 7 feuilles de match l'an dernier dans le groupe pro depuis décembre 2022. Le double de match cette saison, finalement avec 14. Comment on vit cette progression?
Je suis très content personnellement. Voilà, ça monte crescendo. Il y a 2 ans, j'étais seulement en espoir. L'an dernier 7, cette année 14, et la saison n'est pas terminée, donc j'espère encore en faire quelques-unes. Mais personnellement, c'est satisfaisant de rentrer un peu plus encore dans l'équipe. Tu te sens beaucoup plus impliqué dans le jeu et dans le projet. Dans le projet de groupe, donc voilà, c'est bien, je suis content.
Et je pensais, mais je regardais effectivement depuis la veille de Noël comme un cadeau, effectivement, ou presque, du côté du staff. On vous a fixé au poste de second centre, numéro 13, alors que sur les précédentes sorties, vous étiez plus à l'aile. Comment on vit ce changement? Comment vous avez vécu ce changement? Et puis le fait depuis, vous avez enchaîné toutes les rencontres en championnat.
Moi, ce changement, j'y suis préparé, hein, de toute façon... Comme les coachs le savent, je peux jouer 15, 14 ou 13, peu importe. Donc peu importe où ils me mettent, je serai prêt. C'est ça aussi le métier de joueur de rugby. Donc
après, ça demande des choses différentes.
Ouais. Oui, bien sûr, les postes sont différents.
Est-ce que ça vous convient?
Bien
envie de vous dire.
Oui, bien sûr. Tant que je suis sur le terrain, ça me convient à moi.
Et alors, cette paire avec notamment Federico Mori dernièrement?
Fédé, c'est un mec que je connaissais pas avant le début de saison. C'est un super mec. Franchement, je m'entends super bien avec lui. Et au niveau du terrain, ça se passe bien aussi. Je pense qu'on se complète assez bien. C'est un mec qui est solide, qui avance sur les percussions. Et moi, je pense que je suis plus dans le registre d'évitement et de vitesse. Donc voilà, je pense que c'est bien.
Je vais poser une question aux deux trois quarts, Bala, mais cette association sur Arnaud en centre.
Oui, moi j'aime beaucoup, et puis je trouve qu'il a le vrai profil d'un 13. Quand tu es associé avec en effet un joueur qui peut porter les ballons et agresser la ligne, après toi, si tu fais l'équipe, tu te mets où?
Je demande beaucoup de responsabilité là.
Je me mets sur la feuille. Juste.
C'est une belle question, tu l'avais bien amené cela dit.
C'est une question que tu poses à tout joueur. Si un jour on est en finale du championnat de France et que tu fais l'équipe, fais-moi l'équipe titulaire. Comme ça, si toi tu l'as fait à la fin, t'es pas emmerdé. Quand il y a un mec qui est remplaçant, tu dis ah ben non, c'est ton copain qui a fait l'équipe en début d'année.
C'est la leçon de staff du coaching d'Éric Balader. JB sur le regard d'Arnaud au poste de centre.
Non, moi je trouve qu'il s'en sort très bien.
Tu connais un petit peu le poste, j'ai envie de dire.
Ouais, un petit peu. Non, je trouve qu'il s'en sort bien. Après, moi par rapport à l'association avec Federico Mori, en tant qu'amateur de rugby, je préfère quand un autre profil que le profil de Federico Mori au centre, notamment offensivement, parce que je trouve que notamment l'aviron. Le ballon, il s'arrête un peu trop souvent au poste 12 et il n'y a pas plus loin. Et ce que je trouve dommage, parce qu'il y a eu des matchs au Stade Toulousain où l'aviron a proposé du jeu et c'était pas le même 12 que les matchs qu'ils ont, que Federico Mori en 12. Donc, je trouve que si, en mettant ce 12-là, le jeu de l'aviron change. Ouais, c'est efficace, mais ça change.
Ça, il faut. Il y a eu un ancien entraîneur bayonnais qui, quand il y avait un nouvel entraîneur qui arrivait, lui proposait de la lecture tous les ouvrages qui avaient été faits sur le jeu de ligne bayonnais. De temps en temps, il faudrait les remettre à disposition de certains.
Bon, avant de parler de Barcus, puisque c'est là où tout a commencé pour vous, Arnaud Hermine Artégaray, on est avec un ancien entraîneur qui vous a connu, mais c'est du côté de Mauléon cette fois-ci. C'est Sébastien Jacquat qui est avec nous. Salut Seb.
Oui, bonsoir.
Ça va?
Bonsoir à tous. Très bien.
Ouais, merci d'être avec nous. Effectivement, on est avec Arnaud. Effectivement, tu l'as vu, tu l'as côtoyé du côté du SAM à Mauléon où il venait de Barcus. Ton regard d'abord sur, avant de parler du jeune joueur qu'il était, que tu as récupéré, mais ton regard sur ce qu'il est devenu, ce qu'il est en train de devenir.
Actuellement, sa progression, elle est très intéressante. C'est sa troisième année à l'aviron bayonnais depuis qu'il a quitté la Soule. Je crois que c'est. Je vous en avais parlé, j'ai pas trop écouté. Je crois que c'est la saison où il fait le plus de feuilles de match.
Oui, 14.
Donc c'est bien pour lui, c'est bien d'enchaîner. Surtout en plus qu'il y a de la concurrence sur les postes auxquels il évolue, et notamment là, au poste de centre. Donc. C'est bien de le voir à ce niveau, et évidemment que je pense que lui doit être content, on est content pour lui aussi, et c'est surtout qu'il est arrivé à franchir ce cap du professionnalisme qui était peut-être la principale inquiétude au moment de son arrivée à Bayonne.
Arnaud, sur ce que dit Sébastien, effectivement, le franchir le cap du professionnalisme.
Oui, c'est sûr que. Venant d'un milieu amateur, c'est une étape importante. Quand je suis arrivé à Bayonne, je connaissais rien du entre guillemets du professionnalisme, de ce que c'était de s'entraîner tous les jours, de tout ça. Et non, c'est sûr. Bon après, franchement, Ça vient tout seul avec le temps et je pense que ça se voit sur le nombre de feuilles de match qui évolue et augmente de chaque année.
Seb, quand tu arrives au SAM, tu vois aussi débarquer Arnaud. À ce moment-là, c'est quel type de joueur qui se présente et tu te dis quoi sur ce joueur-là ?
On le connaissait un petit peu. Catégories jeunes, tout ça. On savait que c'était un joueur avec un potentiel intéressant et il a choisi en fait de s'aguerrir au niveau de la Fédérale Lune parce qu'il avait aussi des contacts sur des centres de formation et c'est physiquement le même avec peut-être un peu moins de muscles, un peu plus jeune, un peu plus tendre, mais rugbystiquement avait de grosses qualités. Moi, je sais pas, j'ai une image là d'un entraînement sur un toucher où on marquait ou on repartait de l'autre côté. Je crois qu'il avait marqué 3 essais d'affilée sans se faire toucher. Enfin, c'est des trucs simples. Donc, c'est quelqu'un qui sentait le rugby, qui avait des qualités pour franchir le pas. Et il a démontré après sur ses 2 saisons à Mauléon en joueur, même si c'était les années de Covid, il avait eu très peu de temps de jeu. Mais voilà, les qualités qu'on nous annonçait, il a su les mettre au service du collectif.
Arnaud, il reste quoi de ces 2 ans au SAM à Mauléon?
Ben, c'est Beniat Arayat qui m'avait fortement motivé à aller vers Mauléon pour m'aguerrir à ce niveau-là, en me disant que c'était un niveau physique qui m'apporterait pour la suite. Et il n'avait pas menti, donc j'en suis content. Ces 2 années, franchement, même si c'était les années Covid, c'est les années où j'ai appris, où je me suis frotté à des mecs plus costauds, prêt physiquement et voilà, et ça t'a guéri, et la fédérale ça joue aussi ça aussi son niveau de rugby et donc voilà, je suis content d'être passé par là.
Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot, mais comment ça se passe pour toi du côté de Peyrehorade?
Oui, on va dire ça va, ça s'est terminé hier sur une élimination en barrage à Gaillac. Et c'est la 2e saison là-bas, ça se passe plutôt bien ce qu'on a dans le club. La saison, elle a été plutôt bonne, même si elle est un peu plus difficile sur la fin, sur les 2-3 derniers matchs de la phase qualificative. Et hier, il n'y a rien à dire sur notre défaite, donc voilà, il y a de la déception, mais bon, voilà, on est tombé face à meilleur, donc voilà. C'est juste ça, mais sinon, c'est un club quasi similaire à Mauléon et on est, voilà, ça se passe plutôt bien sinon.
Merci beaucoup Seb d'avoir été avec nous dans 100% Rugby et à très bientôt.
Merci, au revoir.
On est avec Arnaud Hermine-Artegaray. Arnaud, on parlait de Barcus, là où tout a commencé. Le rugby, c'est venu comment? Et puis derrière, ça s'est transformé petit à petit comment?
Mais le rugby, c'est venu après le foot déjà.
Ouais, c'est ce qui me semblait.
Ouais, c'est venu après le foot. Voilà, on jouait au catéchisme avec mes copains pendant la récréation. Et en fait, ils m'ont motivé après à venir et je suis allé. Et finalement, ça s'est super bien passé.
Quel poste en foot, juste pour les curieux?
Défenseur central.
D'accord. Ouais. Ça fait partie de cette longue série.
J'aurais aimé jouer attaquant, mais.
Oui, j'allais dire de cette longue série, effectivement, de joueurs qui avaient les pieds un peu plus, un peu différents,
ouais, c'est ça,
que ceux de devant. Et du coup, on vous mettait derrière.
Ouais. Je sais pas, ça s'est fait comme ça. Je sais même pas moi qui ai fait le choix, mais je me suis retrouvé derrière et puis voilà, j'ai balancé le ballon devant.
Et, et le rugby alors?
Et le rugby, voilà, ça a démarré à 8 ou 9 ans et voilà, finalement, ça s'est super bien passé. J'étais avec mes copains, voilà. Petit à petit, on a grandi. Je m'éclatais de plus en plus et voilà, je voyais que je performais et que j'étais à l'aise. Et voilà, ça s'est bien passé. Je voulais faire ma première année senior à Barcus.
Oui, ça vous tenait à cœur ça?
Oui.
Pourquoi
ouais.
ça?
Parce que c'était des personnes avec qui je m'entendais super bien. C'était des personnes que je côtoyais depuis tout jeune et avec qui j'avais pas forcément joué. Donc c'était aussi le club de mon village. Surtout ça aussi qui primait surtout et voilà, donc j'ai fait cette année-là et après j'ai eu le choix voilà de partir à Mauléon et voilà, un choix qui pour moi s'est avéré payant et je me retrouve ici aujourd'hui.
Voilà.
Oui, non, revenir juste sur cette zone géographique dans laquelle il y a quand même aussi un copain qu'on voit moins cette année, Orabé, qui est issu du même club.
On va revoir bientôt.
Voilà, qu'on va revoir bientôt, en tout cas, je le souhaite.
Là, c'est Chirotte.
Ouais, mais
on sous le mais c'est chiant.
Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec de l'autre côté Nafaroa et de ce côté Montléon, on a quand même aussi sur ce territoire de la formation et récompensé parce que tous ces éducateurs qui le regardent le samedi à la télé sont fiers de l'avoir et récompensé quand même le travail des clubs amateurs. On dit souvent, on est formé. Non, on est formé dans les écoles de rugby d'abord et après on a en tête un éducateur qui, on se rappelle de ses mots, on se rappelle de ses exercices et on arrive après au haut niveau et là on trouve d'autres copains, mais la vraie formation c'est les petits et il faut féliciter ce coin Montléon, Barcus, Nafaroa, tous ces villages.
Tu te souviens toi de l'éducateur qui t'avait fait?
C'était mon père, donc je m'en souviens.
Très bien.
Ah oui.
J'en ai pas mal des éducateurs, mais là, si je devais en sortir un, ce serait Patrice Etcheverry.
Voilà,
le père d'un copain à moi. Et ouais, je retiens ce nom-là maintenant. Mais après, j'en ai plein. Franchement, je les ai tous en tête là.
JB, toi, mon gars.
Alors, j'ai eu mon père, mais celui qui m'a le plus marqué, Jean-Paul Pouille.
D'accord, pourquoi?
Parce qu'il a beaucoup de caractère. Justement, on en parlait avec un repas de famille ce week-end, que c'est quelqu'un qui détestait perdre et qui, dès le premier âge, nous apprenait juste à gagner. Il fallait, quand on était à Mouga, il fallait gagner. S'il fallait un peu contourner les règles d'arbitrage, il fallait gagner. Et c'est quelqu'un qui nous a donné cette envie de jouer au rugby, de gagner n'importe quel match, en fait. Que ce soit l'entraînement ou un tournoi.
Oui, mais c'est ça que je veux mettre en avant. Et souvent, tu demanderas à n'importe quel joueur. J'ai trouvé très intéressant, il y a eu quelques temps, là, le fait de mettre sur le maillot de l'équipe de France les clubs formateurs et tout ça. Ça, c'est une superbe idée.
Plus que les noms sur les maillots.
Ouais. J'étais sûr. Ouais. Le nom, la fiancée, le tatouage sur le strap. Non, faut arrêter.
Un mot, parce qu'on parle du cut, effectivement, qu'il faut passer quand on passe pro, il y a aussi physiquement, et je me rappellerai toujours du premier trimestre quand Grégory Patat est arrivé, il nous avait dit, parmi ceux qui avaient réussi largement les tests physiques de l'été, pas le précédent, mais celui d'avant, de la saison précédente, vous faisiez partie des premiers. En tout cas, physiquement, vous aviez tout arraché dès votre arrivée dans ce groupe.
C'est les mecs de la montagne, ça, je pense. C'est l'air de la montagne.
Vous connaissez cette air-là.
C'est ça. Non, je sais pas. Non, franchement, je pense que c'est pas du tout lié à ça, mais bref. Johan et moi, on était surtout des profils assez aériens, je dirais, où on est des profils qui courent plus qui perforants. Donc forcément, on a ces qualités premières physiques sur lesquelles on se base. Donc c'est sûr que la course, c'est quand même quelque chose qui est plus facile pour nous. Je pense qu'il vous a pas dit les perfs en muscu parce que
c'est
pas les meilleurs.
Ah ouais, à ce point-là.
Oui.
Et aujourd'hui, deux ans après.
Oui, aujourd'hui, oui, ça va mieux.
Ouais, parce que mine de rien, sur l'évolution du chlore, je me rappelle des premiers mois, des premières semaines où, enfin, en tout cas, si on prend une photo, je pense il y a un an et demi et maintenant, on sent que même de votre côté, il y a une évolution.
Oui, mais c'est sûr. Mais nous, dans le milieu amateur, avec Johan, on n'a pas touché une barre de muscu. Donc, moi, je suis arrivé ici, je suis passé pour un peintre. Donc voilà, petit à petit on s'y met, et voilà, maintenant c'est
la muscu leur sert à ces joueurs de d'éviter le plus longtemps les blessures. Par contre, il faut qu'ils gardent leurs qualités, qui sont la vitesse, l'évitement, la technique avec le ballon. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand tu vois l'essai qui nous met deux essais, enfin l'ailier qui nous met deux essais ce week-end, je l'ai vu à la sortie à côté. Franchement, t'as l'impression que c'est un crabos, hein, le petit.
Louis Vielbiaré.
Ah, excusez-moi, mais c'est la première fois que je le voyais de près. Il a des cuisses longilignes. Par contre, dès qu'il met un ballon, il met un coup de fusil, quoi. Donc, forcément, que c'est un sport aussi où la vitesse, c'est l'arme principale, hein, au rugby. Il faut pas croire qu'il faut les moller de Tamei Fufuna, là, je sais pas. C'est utile dans certains cas, mais la vitesse est l'arme principale. Et il faut qu'ils gardent leur arme.
À 23 ans, quels objectifs vous êtes fixés, Arnaud? À court, moyen, long terme?
Moi, c'est de m'installer pleinement dans le projet de Bayonne. Hein. J'aime ce club, j'aime sa ville, j'aime ses supporters. Donc voilà, c'est faire partie à part entière de l'équipe et du projet, s'installer, être titulaire, pourquoi pas, voilà, sur la durée, et voilà.
À quel poste? On y revient. On y revient, mais très bien. Le principal, c'est que vous soyez donc titulaire. Merci beaucoup. Merci Arnaud d'avoir été avec nous dans 100% rugby. Je dis Arnaud depuis tout à l'heure, mais tout le monde vous appelle Herbie, donc en fait, j'aurais dû commencer par ça. Mais on va dire qu'on a voulu faire les choses bien. Merci beaucoup Herbie d'avoir été avec nous. Et du coup, bonne reprise demain. Et puis bon repos, puisqu'ensuite vous êtes de mercredi jusqu'à lundi prochain en repos, c'est ça?
On a repos, on attaque lundi. Ouais.
Voilà, avant de le déplacement du coup chez le Racing, match délocalisé à Auxerre le 11 mai. 100% rugby revient pour évoquer le BO qui a fait un grand pas vers le maintien.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque, Stéphane Garcia.
Pour parler du Biarritz Olympique qui a fait un grand pas vers le maintien, le BO qui a repris son destin en main en l'emportant Armandie 30-26 contre Agen, tout sauf un hold-up pour le coup du côté du BOPB. Est-ce que le maintien est assuré, JB?
Non, il n'est pas assuré.
Question volontairement provocatrice. Hein.
Non. Surtout quand on parle de maintien, faut jamais Biarritz se
Olympique
reposer.
Ces derniers temps.
Ouais, surtout du Biarritz Olympique, ils sont capables de faire. J'espère qu'ils vont pas reproduire la même performance que contre Grenoble, mais si jamais c'est le même résultat contre Provence, on aura encore des doutes. Donc non, le maintien n'est pas acquis, mais ils ont les cartes en main et une victoire contre Provence assurerait définitivement le maintien.
On est avec celui qui a commenté la rencontre du côté d'Armandie, Thomas Vinclair. Salut Thomas.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous. Toi qui étais à Armandie, on le disait, un match maîtrisé de la part du Biarritz Olympique.
Ouais, match maîtrisé. Ils ont été devant le BO pendant plus de 70 minutes dans cette période. Alors c'est vrai qu'ils ont été piqués un peu au vif au début avec l'essai de Nalaga. C'était au bout de la 5e, 6e minute de jeu. Mais ensuite, ils ont réussi à mettre la main sur le ballon. Ils ont réussi à mettre de la vitesse avec deux essais rapides, notamment celui de Zachy Berridge et puis celui de Vincent Martin. Puis au fur et à mesure du temps, le BO était vraiment mieux, on va dire, notamment dans les zones de ruck, ce qui lui a fait beaucoup défaut hein, quand même quand tu regardes depuis le début de la saison. Et c'est notamment porté par un homme, hein, Johnny Dyer, le deuxième ligne, qui a été vraiment qui a fait un match XXL sur cette rencontre à Armandie face à Agen. Johnny d'ailleurs qui n'était pas forcément dans les plans de Simon Mannix depuis son arrivée et qui là depuis 2-3 matchs fait son retour dans le groupe en tant que titulaire sur ce match-là. Il a vraiment été précieux. Et puis ensuite sur la deuxième période à partir de la 60e, le BO, tu sentais vraiment que ça manquait de profondeur dans le banc avec tous les blessés. On a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a Joe Jonas, O'Callaghan, Tyler Morgan, ça fait longtemps, Baptiste Farisco, bref, t'as beaucoup de monde qui manque en ce moment de cette équipe du BO. Et forcément à la 60e, ils ont un peu baissé de rythme et à la fin ils ont failli le payer cash parce que Agen a clairement la balle de match,
hein. Ce ballon perdu dans les dernières secondes. Juste avant d'évoquer ça, toi là, sur cette rencontre à Armandie.
Beau match, moi j'ai bien aimé ce match, franchement, agréable à voir, avec deux styles différents. Les Biarros dès le début, on sent qu'ils veulent mettre du rythme au match, aller chercher les couloirs, les Agenais tristes ou nets quand ils sont en possession du ballon, malgré les qualités individuelles de certains joueurs. On sent cette équipe malheureuse, j'ai envie de dire, alors que là aussi, dans le stade, il doit y avoir des gens d'un certain âge qui doivent se rappeler des époques lustres, les pauvres là, et ils doivent mal dormir. Mais pour revenir sur cette rencontre, victoire logique, parce que j'ai pas senti plus que ça une domination à Genèse. Les Biarros ont utilisé bien le pied et c'est surtout que toujours pareil, moi j'aime bien les animations qu'ils ont, j'aime bien les joueurs dans certaines zones créer du danger. Donc victoire logique, à voir, parce que c'est vrai que souvent quand ils font ça derrière, il y a des désillusions.
Et pourtant ils étaient attendus, ce groupe-là. Il y a eu, Thomas le disait, des joueurs qui ont répondu présents. On pense à Johnny d'ailleurs, pour le coup, qui avait une saison difficile. Temo Mathieu, encore une fois monstrueux. La charnière, Pierre Pagès, Billy Searle, qui ont confirmé, qui ont relevé le défi. Toi qui étais au stade, Thomas, on le disait, pourtant le BO à 30 secondes de la fin a failli perdre ce match, a failli faire une Bayonne.
Ouais, fallait faire une Bayonne, clairement. C'est encore pire que Bayonne parce que il restait vraiment 15 secondes à jouer. T'as une mêlée, tu fais un temps de jeu avec Mahafou, il est tout seul. Il se fait pénaliser et donc là il repart sur une pénale touche à 5 mètres de la ligne. Mais en même temps, t'as vu un état d'esprit que t'avais pas forcément vu sur votre rencontre. Et là, je pense notamment à cette touche à 5 mètres de la ligne où je le défends très bien avec Mathieu, Charles Mathieu aussi, qui vont mettre les mains sur le ballon. Et là, c'est tout un groupe qui est récompensé. Et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien pour le BO parce que j'entendais, ils sont pas forcément mathématiquement maintenus, les joueurs du Biarritz Olympique, mais quand tu vois que tu as 7 points d'avance sur Montauban qui est incapable d'enchaîner.
Montauban qui sait qu'il a perdu la Colonie, c'était sans doute le match du maintien pour eux.
Oui, c'était le match du maintien pour eux. Enfin, Montauban, c'est vraiment un exploit monumental qu'il reste en Pro D2. Je pense que le BO a toutes les chances, même en cas de défaite, de se maintenir quand tu vois le calendrier de Montauban.
Après, il faut qu'ils envoient les papiers aussi.
T'as 7 points là, pardon, effectivement, de Montauban.
Ouais, t'es à 7 points et Montauban qui reçoit Mont-de-Marsan lors de la prochaine journée.
Qui se déplace pas très bien, Mont-de-Marsan.
Mais Mont-de-Marsan, ils doivent jouer le top 6, tu vois. Donc c'est ça qui est compliqué.
Ouais, mais quand je le maintiens ou quand je les phase finale à la fin de saison, ça se vaut quand même. Ouais, hein.
Ça se vaut, je suis d'accord. Mais Montauban, quand même, c'est une victoire en 9 matchs. Donc tu peux pas croire que cette équipe. Dans l'état d'esprit, tu peux pas croire qu'elle mette 2 victoires directement sur les 2 dernières journées. Pour moi, ça me paraît très difficile en tout cas.
Ouais, après tout dépend. En fait, s'ils gagnent contre Mont-de-Marsan, ils sont capables d'aller gagner à Aurillac comme match du maintien. Ça reste Montauban. Le match qu'ils font à Colomiers, ils sont un de moins. Ils arrivent à arracher quand même bonus défensif. Obiaro de se l'assurer d'entrée contre Provence, et au moins l'histoire est réglée.
Avec Eric. Vas-y Thomas.
Il a raison. Non, mais ce qui est pas faux, c'est que au moins sur les 2 derniers matchs, t'as peut-être 2 matchs qui sont gratuits pour le BO, parce que t'as ce match d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence aujourd'hui, ils sont directement en demi. Donc est-ce qu'ils vont déjà pas penser aux phases finales, pas se blesser du côté d'Aguilera où t'as pas grand-chose à jouer vu que t'es déjà en demi. Est-ce que tu vas pas faire tourner ton effectif et te préparer pour ces phases finales qui arrivent? Et puis ensuite tu vas aller à Brive. Brive, on sait pas encore où ils seront à ce moment-là. Est-ce qu'ils seront toujours en course au top 6 ou définitivement largué. Donc t'as 2 matchs en fait où tu te dis finalement c'est peut-être 2 équipes qui ont pas encore beaucoup de choses, enfin qui ont presque plus rien à jouer, parce que je disais Aix-en-Provence c'est déjà en demi, et Brive ils seront peut-être sûrement même dans le top 6.
Bon, ça fait beaucoup de si, machin. Faut gagner.
Bah là, depuis tout à l'heure, en fait, il attend une chose. Faut que je dise qu'effectivement, le vrai prochain match de Biarritz, on va pas se mentir tous, et c'est que les supporters attendent, c'est le 6 mai, lundi prochain, l'AG extraordinaire qui rassemblera les 88 actionnaires du club qui devront acter la prise de pouvoir du trio Egarty, Van der Merwe et Marc Bagé. Et le lendemain, le 7 mai, la convocation en commission de discipline pour apporter les garanties financières et surtout montrer les preuves, car le gendarme financier de la Ligue, la 2R, est en train de s'impatienter. Ça, c'est vraiment le vrai match pour toi?
Non, mais moi, je pourquoi tu dis ça? Non, moi, j'attends rien du tout. Moi, je suis...
Je pense que les supporters Biarro attendent de ça, effectivement.
Aujourd'hui, quand même, ils peuvent gagner tous les matchs. Si à un moment, ils montrent pas les papiers de la bonne couleur... Même en gagnant, ils vont jouer contre Anglet. Hein.
Bon, le trio pour les 100 de repreneurs. Alors t'exagères, parce qu'effectivement non, c'est pas le cas. Mais le trio de repreneurs est en train de finaliser les derniers détails. Et effectivement, ils ont toujours dit dès le départ, on ne veut pas parler avant le 6 mai, parce que c'est à ce moment-là qu'on aura toutes les cartes en main et que personne ne pourra plus influer, entre guillemets, sur ce qu'on décidera du côté du Biarritz Olympique, du club.
C'est légal, surtout, je pense.
C'est légal aussi, parce que dans le processus de vente, il y a des droits de confidentialité. Et qu'on sait que l'année dernière, notamment entre Romain Détré et Jean-Baptiste Aldiger, ça a pu fuiter, ça avait mis en colère notamment les deux camps.
Non, mais ce qu'il faut espérer, c'est que ça se passe bien et qu'ils aient le temps derrière de reconstruire une équipe, parce que je pense qu'ils vont avoir du boulot, quoi.
JB.
Mais tout ça, en fait, on le maîtrise pas. Enfin, nous, en tout cas, moi, je suis pas partie des potentiels repreneurs. Je sais pas vous, mais moi, non.
Et donc ça, on le maîtrise pas. Sur Litchi, effectivement, le financement participatif.
Non, du tout. Mais par contre, ce que les supporters du mot maîtrisent, c'est d'aller devenir Aguilera au moins pour la phase finale du BO. On se contente de ce qu'on a. Mais c'est un match peut-être plus important qu'une phase finale. C'est le maintien du BO en Pro D2. Donc, si personne aime le BO, alors, on parle pas du président, on parle pas d'ancien président ni de mairie, mais, un supporter du BO doit aller au stade contre Provence, parce que s'il y a un match du maintien, c'est bien celui-là.
Ouais, le Biarritz Olympique qui recevra donc Aix, Provence Rugby.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Fin de saison pour l'Anglet Olympique, battu à Rennes de 2 points, 21-19. On y était tout près du côté de la ORC. On est avec le capitaine de cette équipe, Enzo Labadie. Bonsoir Enzo.
Oui, bonsoir à tous.
Est-ce que 24 heures après, la frustration de cette défaite est toujours là, ou vous avez eu le temps de regarder ce qui avait été accompli sur cette saison?
Alors oui, la frustration est toujours là, parce qu'on savait qu'il y avait la possibilité de faire plus cette année, mais bon voilà, on est reparti sans regret de Rennes. On avait décidé de mettre du rythme et de jouer tous les coups, donc c'est ce qu'on a fait. On a été fidèles à notre identité, et puis voilà.
fidèle à votre identité dès le départ, parce que face à une équipe où c'est franchement des Golgothes, hein, face à des joueurs qui vous mettent quelques dizaines de kilos et quelques dizaines de centimètres, on se dit que vous n'avez pas démérité et d'entrée vous avez envoyé du jeu.
Mais on savait que ils allaient nous chercher à mettre la densité physique dès le début, donc on voulait les déplacer, mettre du rythme, et c'est ce qu'on a fait. Et on a vu que à la 40e, voilà, on était à égalité, à 6-6 à la mi-temps, donc on s'est dit qu'on pouvait faire plus plus encore devant, et voilà, ils ont mis leur densité à leur jeu à partir de la 50e, et à la fin de match on a réussi à marquer, mais c'est trop tard.
Oui, parce qu'effectivement, il y a ce doublé, enfin, qu'ils inscrivent coup sur coup à la 52 puis à la 57e. À ce moment-là, il y a 18-9. Et franchement, on aurait pu se dire que la ORC aurait pu lâcher, derrière prendre 30 points. Non, au contraire, il y a eu un regain et l'équipe a pas lâché, a tenu bon.
Ben effectivement, ouais, c'est aussi l'entrée des remplaçants qui a été importante. Voilà, ils ont apporté du rythme, mais aussi du soutien moral. Donc voilà, ils ont décidé, on a décidé de tous ensemble de faire les choses correctement. Qu'on s'est dit qu'on voulait pas avoir de regrets en partant de Rennes, que un match c'est 80 minutes et que voilà, on pouvait revenir jusqu'à la fin. Et ça s'est vu, on finit à 21-19.
Avec c'est effectivement cet en avant dans l'embut à 4 minutes du terme, frustrant. Ouais. Mais c'est ça fait sans doute pas tout. Mais c'est vrai qu'il a sans doute manqué, c'est globalement de gestion, de maîtrise du côté de la ORC pour venir à bout de cette solide équipe de Rennes.
Oui, c'est sûr. Voilà, après nous, on s'entraîne depuis le début de la saison en pensant à ce maintien. Donc voilà, c'était que du plus pour le moment. Sur ce match, il a manqué peut-être un peu de maîtrise vers la fin, mais voilà, on s'est donné à fond et c'est ce qu'il fallait.
Enzo Labadie, capitaine de la ORC, on le disait, cette défaite, elle marque la fin de la saison. La frustration, elle vient sans doute aussi de cette envie de poursuivre l'aventure avec ce groupe, avec ce staff aussi, ce groupe qui s'est constitué ces 12 derniers mois.
C'est vrai qu'on a un groupe qui est assez jeune, comme on le dit à chaque fois, c'est un groupe vraiment jeune, mais qui est encadré par des anciens qui nous suivent bien. On a toujours eu un staff compétent et c'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui en quart de finale. Et puis voilà.
Troisième ligne de l'Anglette Olympique. Enzo, pour le coup, c'est vrai que poursuivre cette équipe depuis plusieurs mois, on le voit en tout cas, c'est quelque chose qui est indéniable quand on a suivi cette équipe. C'est la relation que le groupe a réussi à lier avec Anto, Anthony Biscay et avec Seb Fauquet.
C'est vrai qu'il nous laisse pas mal de liberté sur le terrain, mais aussi en dehors. Et c'est ce qui fait un peu cette harmonie du groupe. Depuis le mois de juillet, on décide de passer du temps sur le terrain, mais aussi en dehors. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été notre force, d'être un groupe soudé. Et on l'a prouvé jusqu'à la fin.
On le disait, maintenant que cette saison elle est terminée, quel est le bilan qu'on fait du côté d'Anglette?
Le bilan qu'on fait du côté d'Anglette, c'est déjà qu'on avait pour objectif de se maintenir. Donc voilà, le maintien il a été fait à deux journées de la fin du championnat. Qu'aujourd'hui on a été jusqu'en quart de finale et on s'est battu pour l'avoir cette place. Et maintenant, on va essayer de repartir de plus belle avec les mêmes et repartir avec les jeunes et les anciens qui sont au club.
J'étais en discussion effectivement avec Anthony Biscay hier qui disait ce groupe mérite de vivre quelque temps ensemble. Vous avez pris conscience de ça, qu'il y avait quelque chose à aller chercher du côté de la ORC, que vous pouviez aller retourner des montagnes avec la qualité qu'il y a dans ce groupe?
C'est vrai qu'on l'a senti, notamment sur des matchs importants comme cette victoire à Arcachon qui ont été en concurrence directe. On savait que c'était un match compliqué, mais ça, c'est dans ces moments-là où on s'est retrouvé, qu'on s'est soudé et qu'on a décidé de faire les choses bien. Et aujourd'hui, voilà, à la fin de la saison, on se dit qu'on est capable encore pendant quelques années d'aller plus loin.
Merci Enzo Labadie, capitaine de la ORC. Bonne soirée, à très vite sur France Bleu Pays Basque.
Merci. Merci, au revoir.
L'Anglette Olympique, on aura le plaisir de retrouver l'an prochain avec Saint-Jean-de-Luz en National 2. 100% rugby, c'est fini pour ce soir. Merci à Bala.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci JB.
Merci, bonne soirée.
Vous retrouvez l'émission en podcast sur le site internet, les applications ici ou Radio France, et notamment l'interview d'Arnaud Herbin Artegaray, trois quarts de l'aviron bayonnais qui était notre invité ce soir, avec qui on est notamment revenu sur son parcours depuis Barcus, sur la défaite contre l'UBB, ou sur le prochain déplacement du côté du Racing à demain avec Yann Blanchard et Julien Dejean.